Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, un docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui demanda pour l'éprouver, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, à ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. » Les pharisiens étant assemblés, Jésus leur posa cette question. « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui dirent, « De David. » « Comment donc leur dit Jésus, David, sous l'inspiration de l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, de tes ennemis je ferai l'escabeau de tes pieds. » Si David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ? Nul ne puis lui fournir. Pu lui fournir l'explication, et depuis ce jour, personne n'osa plus l'interroger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette courte méditation sera en deux parties, comme le fait Père Roger. D'abord, petite méditation sur l'Évangile, et ensuite, je répéterai quelques grands passages de cette catéchèse que Père Roger a commencé en août. D'abord, l'Évangile de ce jour, et je voudrais relever trois leçons. Les pharisiens veulent mettre Jésus à l'épreuve. Ensuite, dans sa réponse, Jésus ne dissocie pas l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Et enfin, nous ne sommes plus sous le règne de la loi, mais sous celui de la grâce. Jésus avait donc des contradicteurs qui voulaient le mettre à l'épreuve. Et si Jésus a été mis à l'épreuve, nous-mêmes ne devons pas être étonnés d'être questionnés. Et nous le sommes dans notre vie, peut-être même tous les jours, que ce soit au travail ou ailleurs. Et c'est donc avec sérénité et même avec joie que nous devons accepter de témoigner de notre foi. Avec toujours le souci d'enrichir notre interlocuteur en lui communiquant notre foi orthodoxe, notre pratique orthodoxe. Dans les écrits des pères ascètes, comme nous disons, les pères du désert, il est souvent rapporté que celui qui s'adresse à un père lui dit « Abba, donne-moi une parole ». C'est donc plein d'humilité et non pas de duplicité qu'on demande « Donne-moi, Père, une parole qui enrichisse ma vie, qui me fasse progresser dans la voie de Dieu ». Et telle n'est pas l'attitude des pharisiens dans l'évangile de ce jour qui veulent mettre Jésus à l'épreuve. Certes, il faut poser des questions sans cesse et toujours. J'allais dire aux prêtres qui n'ont pas la science infuse, mais entre nous aussi, aux plus anciens, non pas pour les piéger, pour nous piéger, mais pour nous enrichir. À la manière de Marie, la Mère de Dieu, qui demande à l'ange, à l'archange Gabriel, le jour de l'Annonciation, « Ce que tu m'annonces, comment cela se fera-t-il puisque j'ai résolu de rester vierge ?» Et la réponse de l'archange est celle-ci, « L'Esprit Saint descendra sur toi, la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Poser des questions, oui, pour correspondre, comme Marie, à l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint de Dieu travaille dans nos cœurs, mais il travaille aussi dans le cœur de nos frères, dans le cœur de ceux qui paraissent indifférents et que nous côtoyons tous les jours, dans le cœur de ceux qui sont même hostiles à la foi. L'Esprit Saint travaille dans le monde. Et que nous soyons évêques, prêtres, tous membres du peuple de Dieu, nous sommes serviteurs de cet Esprit qui est partout à l'œuvre et qui est partout présent, comme nous le disons au début de nos offices, Roi céleste, Consolateur, partout présent. Invisible, bien sûr. Alors dans l'Église, soyons les uns vis-à-vis des autres vraiment humbles. J'ai entendu récemment un prêtre dans une homélie, il disait ceci, « Lorsque nous nous avançons vers quelqu'un pour nous entretenir avec lui, faisons-le sur la pointe des pieds. » Et j'ajouterai, pour rejoindre l'évangile de ce jour, et non avec l'agressivité des pharisiens. Je reviens donc à cet évangile. D'après toi, quel est le plus grand commandement de la loi ? C'est les pharisiens qui posent cette question à Jésus. Pour eux, les pharisiens, la religion, semble-t-il, consiste en un code de loi, un code impersonnel. Et que répond Jésus ? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Dieu est une personne vivante, ce n'est pas un code impersonnel. Et ce n'est pas d'un amour à fleur de peau que nous devons l'aimer, mais un amour qui engage toute notre personne. Dieu n'est pas une statue inerte. Dieu est vivant. Est-ce que nous le considérons comme tel ? J'espère. Ce n'est pas un mot du dictionnaire comme les autres. Dieu est le vivant qui nous donne la vie, qui nous donne sa vie, et pour l'amour duquel il vaut la peine de consacrer tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos forces. Voilà le plus grand commandement. Et le Christ s'empresse d'ajouter, et le second commandement lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là aussi, mon prochain, ce n'est pas un mot inerte, un objet. Mon prochain, c'est une personne, un être vivant. Il y aurait beaucoup à dire sur cette parole du Christ, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ceux qui se détruisent dans la drogue, dans l'alcool ou autre, comment peut-on leur demander d'aimer leur prochain comme eux-mêmes ? Je ferme la parenthèse. Le Seigneur Jésus n'a pas dissocié le premier commandement
l'amour de Dieu, du second, l'amour du prochain. Les deux commandements sont semblables. Et nous lisons dans la première épître de Saint Jean, l'apôtre, il nous montre comment était faite la catéchèse au milieu de nos frères des premiers siècles. Saint Jean dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Le commandement, le premier commandement, aimer Dieu, et le second sont liés, sont semblables. Le dernier point que je voudrais souligner à partir de cet évangile, c'est que nous ne sommes plus sous le règne de la loi des pharisiens, mais sous le règne de la grâce apportée par Jésus-Christ. Et dans ce mot de grâce, il y a gratuité. Quand nous venons à l'Église, c'est gratuit. Quand nous prions, c'est gratuit. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, dit « La loi a été donnée par Moïse, la loi ancienne. La grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. Et à partir de Jésus-Christ, c'est par lui et en lui que nous devenons justes, que nous sommes justifiés, sanctifiés, comme le dit Saint Paul dans l'Épître aux Galates. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est rendu juste, mais par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas en suivant des règles, des commandements extérieurs à nous que nous progressons dans la vie chrétienne, c'est en croyant de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, que Jésus, le Christ, Fils de Dieu, devenu homme au milieu de nous, est la seule voie qui nous mène au Père. Il est la seule loi qui nous mène à Dieu, le Père, qui est une loi d'amour et qu'il nous a manifestée durant toute sa vie jusqu'à la croix et à la résurrection. La Bible, en particulier le Nouveau Testament, il faut la lire avec des yeux aimants, un cœur aimant, une intelligence aimante, et ne pas nous contenter de l'Épître et de l'Évangile du dimanche, mais bien sûr en reprendre la lecture durant la semaine, mais également y ajouter des chapitres entiers qui nourriront notre foi, et en demandant toujours à l'Esprit-Saint d'éclairer notre lecture pour que nous comprenions ce qu'il a écrit. Voilà pour un petit peu pour l'évangile de ce jour, et je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, être le répétiteur de Père Roger, qui a commencé donc une catéchèse sur la liturgie au mois d'août, et répéter les grands moments qu'il a soulignés. Pourquoi venons-nous à la liturgie ? Pourquoi venons-nous à la liturgie ? La divine liturgie. Est-ce que c'est par habitude que nous y venons ? Est-ce pour les autres que nous y venons ? Père Roger a mis l'accent sur ceci. Dès le début, le célébrant dit « Béni soit le royaume du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours. » Vers qui venons-nous ? Vers la divine Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois personnes divines. Et immédiatement, nous prions la prière. Car c'est pour cela que nous venons aussi, pour prier, pour la paix d'en haut, pour la paix qui vient d'en haut et pour le salut de nos âmes. C'est la première demande que nous adressons dans notre prière. La paix, la recherche de la paix, alors que nous vivons dans un monde de violence, d'insécurité, de bruit, nous franchissons ces portes pour venir chercher la paix d'en haut. La paix qui vient d'en haut est le salut de nos âmes. Nous passons du monde extérieur au monde intérieur du salut de nos âmes. Et cela demande peut-être un effort qu'il faut faire. Et il convient que les parents éduquent leurs enfants dans ce sens, à entrer dans l'Église comme dans un lieu saint. Avec eux, venir vénérer les icônes, leur apprendre à bien faire le signe de la croix et nous-mêmes bien le faire. Donner à ses enfants, les parents, donner à ses enfants les premières explications sur le sens des icônes, les couleurs. Les enfants sont très sensibles aux couleurs, comme nous-mêmes, sur les personnages, les vêtements du prêtre, pourquoi il s'habille ainsi, sur les lectures qui sont faites, le pain et le vin, les diptyques qui sont sensibles aussi, les enfants, les diptyques, les noms des vivants et des défunts qu'on remet entre les mains du prêtre qui les lit. Le pain et le vin que ces enfants et nous-mêmes recevrons au moment de la communion. Père Roger a aussi insisté sur une phrase qui revient très souvent: présentons-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ, notre Dieu. Présentons-nous nous-mêmes les uns les autres. Cette phrase revient souvent. Nous ne sommes pas seuls dans l'Église. Nous y venons pour le salut de nos âmes, bien sûr, mais nous nous portons aussi les uns les autres. Et nous portons aussi tous les absents que nous avons inscrits sur les noms qui sont donnés aux prêtres. Père Roger aussi a insisté sur l'attitude intérieure primordiale qu'il convient d'avoir quand nous nous présentons devant l'autel de Dieu, avec une conscience dénuée de toute animosité envers qui que ce soit. Le Christ nous l'a rappelé, c'est dans Matthieu au chapitre 5. Au moment de présenter ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et la confession peut être d'un grand secours. Alors ne laissons pas le ver de la rancune, le venin de l'inimitié, le jugement vis-à-vis de quelqu'un gagner du terrain dans notre cœur. Ensuite, Père Roger a fait allusion à ce moment où, après la petite entrée, comme on dit, avec l'évangélière, le prêtre est à l'autel et il dit « Pace tuturor », paix à tous. Et il le dira tout au long de la liturgie plusieurs fois. Ces paroles ont été dites par le Christ lorsqu'il est entré dans la salle aux portes closes où étaient les apôtres après la résurrection, et il leur a dit « paix à tous ». Cela veut dire que le Christ ressuscité est invisiblement présent au milieu de nous. Ce sont ces paroles que nous entendons tout au long de la liturgie. Ce sont ces gestes que nous refaisons, et notamment sur le pain et le vin. Et comme à la dernière scène, il va nous donner au cours de la divine liturgie son corps à manger et son sang à boire. Et à nous d'être attentifs. Et vous avez entendu aussi que ce mot « soyons attentifs » revient très souvent dans la liturgie, mais ce mot, nous l'expliquerons une autre fois. À notre Dieu soit l'honneur et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen.